16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre qui devrait être assez formidable puisque Stéphane, vous vous souvenez ce que vous m'avez dit hier soir ?
Je me donnerai à toi tout entière.
Non, avant ça vous m'avez dit. Non, vous m'avez dit on a trois personnages très intéressants demain, c'est ce que vous me disiez. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui comme d'habitude, évidemment, on réunit trois personnages très différents qui ne vivaient pas à la même époque mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, allez le bleu.
On va parler foot, c'est pour ça que vous êtes aussi joyeux Stéphane.
Non, on va parler art avant. Avec des personnages qui ont marqué la création et qui avaient, c'est vrai, le bleu en commun. À commencer par la grande couturière Jeanne Lanvin, dont on connaît la griffe encore aujourd'hui. Elle fut l'une des premières à habiller la Parisienne avec une couleur en particulier, le bleu, mais pas n'importe lequel, le sien, le bleu Lanvin. Puis, lui aussi a créé son propre bleu, le bleu Klein, avec lequel il a révolutionné l'art avec des toiles monochromes bleues, donc. Je vous raconte l'artiste peintre Yves Klein. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% en vrai d'un bleu plus proche de nous et artiste aussi à sa manière, Didier Deschamps.
Oui Stéphane, je sais que vous ne lui avez toujours pas pardonné son choix tactique du 3-5-2 contre la Suisse, un schéma pour lequel vous avez eu des mots très durs puisque vous l'avez qualifié, je vous cite, de...
Nul à chier.
Personnellement, je ne suis pas si critique, sachant que Dédé nous a quand même offert une Coupe du Monde et vient de nous offrir une Ligue des Nations. Je vous brosserai donc un portrait plutôt tout en éloge de notre merveilleux sélectionneur national.
Et avec nous comme chaque jour, eux aussi sont merveilleux placés en 1, 2, 3, ce sont nos chroniqueurs. D'abord elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour.
Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs, est-ce que vous connaissez l'expression « bas bleu » ? Ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, c'est pas une expression qui est toute seule, c'est...
C'est bas bleu, en un seul mot.
Oui.
Dans la langue française, ça désigne une femme savante d'une pédanterie ridicule. C'est un mot, un bas bleu.
C'est pas misogyne, quoi.
Mais c'est très très pointu. Vous verrez, c'est un terme qui nous vient d'Angleterre, mais en Angleterre, ça n'avait pas du tout le caractère péjoratif que ça a pris en franchissant la Manche. En anglais, il n'y a pas de bas bleu. Vous voyez, de bas bleu à philosophe des Lumières, c'est à peu près la même chose. Donc c'était très très laudateur en Angleterre, très péjoratif en français. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
Intéressant.
Avec nous, David Castel-Lopez, remonte aux origines d'une invention, d'un objet.
C'est vraiment une invention, ni un objet. C'est un syndrome qu'on appelle le syndrome du cœur brisé.
Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé hier, David?
rien de spécial. J'ai pas été touché par ce syndrome, mais c'est la tristesse qui peut mener à des extrêmes de mauvaise santé. Et je vous expliquerai comment on a découvert ça.
Un remède à la tristesse. Oui. C'est vraiment le bleu d'Auvergne.
Oui. Il est dans le thème.
Oui.
Il est dans le thème bleu. C'est Olivier Pouls.
Vous emmène le bleu jusque dans votre assiette, les amis, je vous raconterai. L'histoire assez, assez amusante et très ingénieuse de l'invention du bleu d'Auvergne. Et puis je donnerai une recette assez sympa à faire aussi.
Enfin, les statistiques sont terribles dans notre grand jeu Burn to be Alive. Et elles ne sont pas terribles pour les joueurs, mais pour le présentateur de ce quiz qui aurait triché de nombreuses fois au moment de distribuer les points. J'essaierai pour une fois de rester neutre et incorruptible aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, c'était la couleur préférée d'un de vos chanteurs préférés, Stéphane.
Bleu, 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 bleu,
bleu,
je
m'embarque
dans tes yeux.
Vous aimez Marcel Amont, Stéphane?
Oui, c'est plutôt la génération de mon père, voyez-vous.
Ah, même... autant pour moi, Stéphane. Désolé pour cette petite bévue.
Non, mais c'est pas grave. Mais j'ai
il est toujours là, Marcel.
Il est toujours là, mais il doit avoir 90 ans.
Il doit avoir un âge certain. Elle l'a aimé, le bleu. Elle en a fait la couleur de prédilection de ses collections de couture avant de créer carrément le sien, le bleu Lanvin. Stéphane Bern nous raconte la grande couturière Jeanne Lanvin.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1889 à Paris, de l'autre côté de la Seine et de Saint-Germain-des-Prés où elle est née. Jeanne Lanvin, première d'une fratrie modeste de 11 enfants, inaugure sa première maison de mode, Lanvin, Mademoiselle Jeanne, mode. Elle sait que pour se faire un nom, il faut une adresse digne de faire rêver les élégantes. Ce sera la rue du Faubourg Saint-Honoré, déjà l'une des plus prestigieuses de la capitale. Elle n'a que 22 ans, pas d'autre argent que ses quelques économies, faites du temps où elle était apprentie chez une modiste du quartier. Mais elle a déjà le sens des affaires. Si sa mère était couturière et son père employé de presse, c'est en autodidacte, sans coudre ni dessiner, que Jeanne Lanvin apprend le métier avant de se mettre à vendre ses propres confections. Ce n'est pas grâce à ses robes que la styliste se fait connaître, mais bien à ses chapeaux. Elle a travaillé quelque temps chez Félix, un chapelier qui l'a envoyé en Espagne se perfectionner dans l'art des couvre-chefs, ses broches, ses broderies et autres colifichets. Mais bientôt, dans la boutique où l'on s'arrache déjà les pièces raffinées de sa collection, des clientes avisées se mettent à lui commander des toilettes. Elles ont compris que le talent de Jeanne Lanvin serait un must pour briller dans les soirées parisiennes. Et voilà qu'en quelques années, les créations de Lanvin sont sur le point de représenter la parisienne dans toute sa splendeur. 1909 marque un tournant. Jeanne Lanvin passe dans la cour des grands et signe sa première collection haute couture avec de nombreuses tenues pour dames. On y trouve des robes, des manteaux, mais aussi des robes de mariée et une couleur qui déjà dénote des autres, le bleu. Le bleu est une couleur qu'elle affectionne. J'en veux pour preuve ce répertoire de couleurs qu'elle a acquis dès 1905. Un nuancier extraordinaire dans lequel Jeanne peut apprécier pas moins de 80 nuances de bleu différents. Si le bleu figure dans toutes ses collections dès ses débuts, il est aussi celui qui prime dans la conception de plusieurs robes pour sa propre fille, l'unique, Marguerite, qui devient la première source d'inspiration de Jeanne Lanvin, qui lui dessine très tôt une garde-robe incroyablement raffinée. C'est là, pour ses créations si personnelles, dans son rôle de mère et non plus de modiste, qu'on peut lire la sensibilité de Jeanne Lanvin. Oui, car pour sa fille, qui n'est qu'une enfant, elle privilégie des bleus plus pâles, des bleus doux, mais des bleus riches tout de même. On ne tombe jamais dans le bleu layette. Le bleu pâle d'ailleurs, alors que la France vit les dures heures de la Première Guerre mondiale, Jeanne Lanvin décide de rendre hommage à ceux qui combattent dans les tranchées. Les uniformes des poilus sont bleus. Presque bleu ciel, à peine un peu plus foncé. Lanvin, la patriote, dessine une collection qui met en avant cette couleur. La mode, c'est capter l'air du temps. Jeanne Lanvin l'a bien compris. En faisant cela, si ce n'est que par intuition, elle a posé les jalons d'une griffe qui doit incarner la grandeur de la France. Et étonnamment, ce n'est justement pas en France que Jeanne Lanvin va faire sa rencontre capitale avec le bleu. La guerre terminée, les Français recommencent à voyager. Et Jeanne aussi. La créatrice parcourt le monde et en ramène des inspirations, des objets chinés, des échantillons d'étoffes ou de costumes traditionnels des pays visités, saris indiens, costumes de Chine, habits de toréador, tissus ethniques. En 1920, Jeanne Lanvin a 53 ans. Elle s'offre une villégiature en Italie où elle s'était déjà rendue et même mariée très jeune avec Emilio Di Pietro, un simple employé de bureau au nom aristocratique. C'est le père de Marguerite. Mais Jeanne a divorcé de lui après 7 ans d'union. Elle est désormais mariée au vice-consul de France à Manchester. Et elle décide d'aller visiter Florence. C'est là, dans la capitale de la Toscane, qu'elle va épouser le bleu à tout jamais. Jeanne Lanvin est éblouie en découvrant les œuvres du peintre du Quattrocento, Fra Angelico. Les pigments de bleu qu'il a utilisés des siècles plus tôt sur ses toiles sont d'une profondeur jamais égalée par ses nuanciers. Elle se damne pour ses œuvres. C'est pour elle une révélation. L'iconographie religieuse italienne qui représente si bien le tombé des étoffes, les drapés, la subjugue. Mais c'est un peu comme si elle n'en retenait que le bleu. La patine du temps n'a rien altéré au bleu profond et intense de Fra Angelico. Jeanne Lanvin rentre donc d'Italie avec ce bleu bien particulier en tête. Et quand Jeanne Lanvin a quelque chose en tête, elle est prête à se donner tous les moyens pour y parvenir. Non contente de simplement concevoir des robes, elle se met en tête de pouvoir créer elle-même ses teintures. C'est comme cela qu'en 1923, Lanvin ouvre à Nanterre sa propre usine de teinture. Elle ne va plus se satisfaire du seul choix de ses fournisseurs de tissus. Elle va ainsi pouvoir définir elle-même les teintes des tissus qu'elle emploiera à ses créations de haute couture. Jeanne Lanvin a une nouvelle corde à son arc. Elle est coloriste. Et dans quelle gamme de couleurs va-t-elle favoriser les teintures de sa propre usine? Le bleu, évidemment. Et dès lors, les scrutateurs de la mode de l'époque dénombrent jusqu'à 25 bleus différents dans les collections proposées par la couturière. Le bleu, pour Jeanne Lanvin, est devenu une passion. Est-ce vraiment explicable, une passion? Sa quintessence est la découverte de Fra Angelico, mais le bleu, pour Jeanne Lanvin, a finalement toujours été présent. Oui, Jeanne Lanvin utilise le bleu pour les robes qu'elle dessine, mais aussi dans sa vie personnelle. La créatrice décide, avec l'aide de son décorateur, d'emparer des pans entiers de son hôtel particulier acheté après la guerre dans le 7e arrondissement de Paris. C'est là qu'elle vivra jusqu'à sa mort, en partageant son temps avec sa maison en banlieue parisienne. Le bleu, elle le destine dans son intérieur à ce qu'elle a de plus intime, sa chambre et son boudoir. Les tentures dont elle les fait draper sont d'un bleu profond, intense, un bleu qui s'approche au plus près sans doute des œuvres du Fra Angelico. On peut s'en rendre compte en visitant le musée des arts décoratifs de Paris qui, dans ses collections permanentes, propose aux visiteurs d'entrer dans l'intimité de Jeanne Lanvin, dans son boudoir et sa chambre en tout cas. On y découvre un mobilier somptueux, des lampadaires du plus grand style art déco, des miroirs, des vases de porcelaine exposés dans des vitrines de part et d'autre d'un sofa. et le bleu bien sûr prédomine. Mais Jeanne Lanvin aime la couleur, les couleurs. Son œuvre relie la mode, l'art et les inspirations de l'époque. Jeanne est amatrice d'art. À ce titre, elle a dans sa collection personnelle des tableaux, notamment de peintres impressionnistes comme Renoir, Degas ou Fragonard, mais aussi Vuillard, à qui elle commande un portrait d'elle, posante en femme d'affaires. Flirtant avec le monde des arts, Jeanne Lanvin se voit aussi commander des costumes pour le théâtre. Amie avec Louis Jouvet, elle réalise pour le metteur en scène les plus beaux costumes de l'époque. Et se voit commander une robe bleue, évidemment, pour Yvonne Printemps. Yvonne est une amie de Jeanne qui porte du Lanvin aussi bien à la ville qu'à la scène et dont elle fait son égérie pour un parfum. Mais c'est surtout l'une des comédiennes les plus en vue de son temps. Et un théâtre, il y en a un que Jeanne Lanvin a marqué à tout jamais. C'est le théâtre d'Aunou, situé près de l'Opéra de Paris. Quand une de ses meilleures amies, Jeanne Renoir, comédienne du cinéma muet devenue directrice, décide de faire habiller l'intérieur de la salle par la grande couturière, Lanvin s'exécute et dévoile un bleu rehaussé d'or. Le théâtre, toujours ouvert aujourd'hui, ne s'est jamais départi de ses couleurs. Il incarne à merveille l'œuvre de Jeanne Lanvin parée de bleu. Aller s'asseoir encore aujourd'hui dans les sièges du théâtre, c'est comme un peu s'asseoir sur les genoux de Jeanne Lanvin.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jeanne Lanvin, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre une riche biographie. Bonjour Martine Allaire.
Bonjour.
Bonjour Martine Allaire, vous êtes historienne et vous publiez en effet Jeanne Lanvin, une griffe, un destin aux éditions Talendier. Ce destin, il est tout à fait romanesque. Jeanne part vraiment de rien. Une famille nombreuse et modeste, elle ne sait ni coudre ni dessiner. Pourtant, elle a réussi. Cette réussite, selon vous, à quoi la doit-elle ?
Elle la doit à plusieurs éléments. D'abord à son envie de réussir. Elle a envie de sortir de cette enfance pauvre. Elle la doit aussi à son génie créatif. Et celui-ci est surtout majoré au moment de la naissance de sa fille. Je crois qu'il est absolument indissociable de voir le processus créatif, c'est-à-dire de voir Jeanne avec Marguerite. Mmh. C'est Marguerite qui va être à l'origine de sa création.
Donc, parce qu'elle l'inspire.
Parce qu'elle l'inspire, parce que il y a une passion entre elles, et c'est surtout la mère qui projette sur sa fille son désir de couture, son désir de réussite. Je crois aussi que Jeanne Lanvin doit ce succès à son sens des affaires, du marketing, on dirait aujourd'hui peut-être, on l'utilisait pas à ce moment-là. Peut-être aussi à son originalité. Vous avez eu raison de parler du bleu. C'est quand même original à l'époque. Et puis, je pense qu'elle le doit aussi à ces nouveaux vêtements qu'elle a apportés aux femmes. Après Paul Poiret, elle a libéré un peu les femmes de leur corset. Donc, tout ça fait que ce sont des éléments qui font qu'elle a beaucoup de succès.
Mmh. Mais comment vous expliquez qu'elle a attiré comme ça toutes les Parisiennes ? Vous avez dit qu'on n'employait pas le mot marketing à l'époque,
ouais,
mais
non.
Elle avait clairement un temps d'avance au sens où elle comprenait ce que voulaient les femmes de l'époque. C'est ça qu'elle a su capter ?
Oui. Tout à fait. Je pense qu'elle a attiré les femmes de l'époque d'abord par la collection d'enfants. Parce que, à l'époque, on habillait les enfants comme des adultes en miniature. Et elle va savoir présenter déjà la robe de baptême de Marguerite, le trousseau de Marguerite, lorsqu'elle est née en 1897. Jeanne a alors 30 ans. Et puis, petit à petit, elle va, lorsque le petit papillon grandit, eh bien, elle va, elle-même faire des robes pour adolescentes, puis pour jeunes filles, puis pour les mères. À la sortie du cours d'Yettelin où va la petite fille, parce qu'elle peut pas aller à l'école public. Jeanne Lanvin, malgré sa pauvreté, a des ambitions pour sa fille. Et donc, lorsqu'elle habille sa fille pour aller à l'école, les mères vont demander les mêmes robes pour leurs enfants.
Mais pour les mères, elle propose une nouvelle féminité aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Plus sobre.
On est plus sobre, plus fluide
plus,
aussi.
Plus fluide, absolument. Plus souple. Le corps est moins serré. La tenue d'une Parisienne qui, avant, est quand même... très engoncée, la femme était engoncée. Eh bien,
c'est très cintrée en fait,
tout
non
à fait. Elle a un corps en S, en fait. Elle est, vous imaginez le S, donc elle a cette poitrine, la taille très fine, la robe jusqu'aux pieds, ça c'est à la belle époque. Et puis Jeanne Lanvin va, après Poiret, donc à partir de 1905, elle va libérer tout ça. Lui va apporter les robes droites.
Justement, pour qu'on comprenne l'originalité de sa démarche, à quoi ressemblait la tenue d'une Parisienne, on va dire, en 1900 ? Parce qu'on a oublié.
Oui, c'était une femme très... un peu comme dans un carcan. Enfin, on parle d'une bourgeoise ou d'une aristocrate, évidemment. Oui. Donc, elle est serrée, engoncée dans des vêtements étroits. Les robes sont toutes un peu les mêmes, sauf plus on est riche, plus on a des dentelles, plus on a des fioritures, de la passementerie, des surpiqûres, souvent virtuoses, etc. Donc ça, on va le garder. Mais la parisienne, elle se dénote surtout par un immense chapeau. À ce moment-là, ce qui fait la différence entre les femmes, c'est la haute mode, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce sont les chapeaux.
Donc, d'où sa carrière de modiste, en fait.
Absolument.
Donc elle règne sur Paris parce qu'elle a été modiste. Donc elle a appris à faire des chapeaux aussi.
Absolument. Et à les embellir, elle était garnisseuse de chapeaux. Donc, elle savait que l'hiver, on portait un chapeau noir, mais avec des objets plutôt en paille. C'était des fleurs. Donc, effectivement, la parisienne porte des vêtements qui vont lancer la mode un peu dans toute l'Europe. On la regarde, elle est belle. Mais elle est quand même très serrée, très encadrée. Son corps a besoin d'être libéré.
Jeanne Lanvin et le bleu, c'est une longue histoire. Est-ce que le bleu, elle l'a imposé dans la mode ou il existait déjà? Ou c'est une révolution de mettre du bleu comme ça?
Je trouve que c'est une très bonne question.
Oh, je vous remercie. Merci.
En fait, le
c'est
bleu...
C'est pas un bleu, lui. Hein.
Oui et non, le bleu... Enfin, oui et non, le bleu est à la mode. Oui et non, elle a imposé le bleu. Elle m'a imposé son bleu, mais le bleu existait déjà, bien évidemment. Il est à la mode depuis la fin du 19e siècle. Sous le Second Empire, c'est plutôt le rouge des rideaux de théâtre. Donc là, c'est le bleu est à la mode. Par exemple, le train bleu, le fameux restaurant de la gare de Lyon, eh bien, il date de 1901. L'heure bleue de Guerlain, c'est 1912. Ensuite, après la guerre, la boutique de la garçonne Monique L'Herbier, le roman de Victor Marguerite, s'appelle le Chardon bleu. Donc, le bleu, tout le monde en parle. Jeanne Lanvin, elle utilise énormément le bleu très tôt. Elle l'utilise pour Marguerite, et vous avez eu raison tout à l'heure de dire mais c'est pas un bleu layette. Elle l'utilise dans les tenues des enfants, dans les tenues des mamans, partout. Elle l'utilise surtout dans sa boutique. Elle a compris que ce bleu, elle devait en faire sa marque. Donc les tentures de la boutique, mais aussi pour les emballages des cadeaux, les emballages des robes, les...
Oui, elle avait quand même un goût d'avance sur le marketing.
Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je trouve aussi qu'elle a le sens de l'harmonie, parce que tout est bleu. Les cartons d'invitation pour les collections sont bleus aussi. Pendant la Première Guerre, elle va même faire une collection bleu horizon, comme les tenues des soldats. Elle va utiliser le bleu chez elle, vous l'avez dit, dans sa chambre. En fait, elle vit dans le bleu.
Et est-ce que son bleu, on peut toujours le retrouver aujourd'hui, si on va chez Lanvin, par exemple?
Oui, on peut toujours le retrouver aujourd'hui. C'est un bleu un peu mauve, un bleu assez particulier. On le voit encore dans des robes aujourd'hui. Mais j'allais dire qu'il s'est un petit peu plus banalisé. On le connaît à l'époque, il était assez extraordinaire. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, qu'elle a créé son usine. Donc son bleu, c'est le sien. Cette usine de teinture à Nanterre.
Mais justement, est-ce qu'elle est la première modiste à se lancer dans les teintures pour avoir ses propres couleurs et parce qu'elle ne trouvait pas les teintes, les nuances qu'elle espérait chez les fabricants?
Les pigments, les colorants, oui, absolument, elle ne les trouvait pas. Donc elle va se lancer dans cette usine de Nanterre. Mais il y a déjà Paul Poiret. En fait, elle est souvent derrière Poiret. Poiret, c'est vraiment le précurseur. Il a ouvert une usine de parfums et une usine de teinture à Courbevoie. Elle va l'ouvrir à Nanterre. C'est d'abord une usine de couleurs et ensuite elle va y faire ses parfums dans cette même usine. Donc 6 personnes vont travailler à Nanterre pour les pigments, les colorants, etc. Et avec eux, elle va...
Choisir
absolument. Mm-hmm. Et puis son neveu, bientôt.
Jeanne Lanvin a connu, on le disait, la Première Guerre mondiale, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Et dans votre biographie, vous expliquez qu'elle n'a jamais fermé, et même qu'elle a continué à faire travailler des Juifs en 1942, alors que c'était interdit.
Oui.
Et qu'elle risquait gros, là.
Tout à fait. Tout à fait. Elle est extraordinaire parce que à la même époque,
Il y a Mademoiselle Chanel qui elle, s'est moins bien comportée, on peut
exactement.
Le dire,
et quoi. Qui a fermé dès 1939. Oui. Hein, déjà, la guerre n'est même pas commencée que Gabrielle Chanel ferme et que des centaines d'ouvrières, voire milliers d'ouvrières, se retrouvent au chômage. Donc ça, Jeanne Lanvin ne le veut pas. Et tant dans la première que dans la deuxième, elle laisse ses boutiques, elle laisse ouvert. Elle est à Paris. Chanel, elle, pendant la Première Guerre, ouvre une boutique à Deauville, où toutes les femmes qui se replient à l'arrière pour soigner les blessés, etc., mais aussi dans leur maison de campagne, faut le dire, eh bien, vont aller. Donc, Jeanne Lanvin, elle continue dans ses boutiques à Paris, et pendant la Première Guerre, elle essuie quand même une grosse grève, qui est celle des midinettes de 1917, qui revendique pour des salaires plus forts. Donc là, elle participe aux luttes sociales, et sa maison continue à bien se porter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne ferme jamais, alors que Madeleine Vionnet se saborde, alors que certains comme Rocha ou Maggie Rouff, eux, eh bien, ils ouvrent en zone libre et ils font des défilés pour les Allemands. Mmh. Jeanne Lanvin, non, elle reste à Paris, elle ouvre, et comme vous le disiez tout à l'heure, on sait qu'en 1943, en juin 43, un mannequin chez elle, qui s'appelle Bella Ariel, qui est une belle femme, jeune, la trentaine d'années, est arrêtée sur ordre du commissariat aux affaires juives, et elle est déportée à Auschwitz, et elle ne reviendra jamais. Ce qui m'a intéressé dans cet exemple, eh bien, c'est qu'en fait, elle pouvait travailler chez Lanvin. Alors qu'elle était juive et que depuis 1942, les juifs ne devaient plus travailler dans le milieu de la couture ni rencontrer un public. Or, la maison Lanvin a fermé les yeux jusqu'à cette arrestation.
Une femme engagée, donc Jeanne Lanvin, c'est quelqu'un qui a toujours su, on l'a dit, s'ancrer dans son temps. Vous écrivez qu'à la Libération, elle donne des noms comme chewing-gum à ses tenues. Oui. Vous dites aussi qu'elle a senti venir à la mode du sportswear. Alors là, elle est vraiment très en avance, là.
Alors, elle est très en avance, et là, on est dans les années folles, dans l'entre-deux-guerres, on est dans les années 20. Mais en fait, là aussi, elle suit quelqu'un qui est Jean Patou. Jean Patou... Elle adore Jean Patou. Malheureusement, il meurt dans les années 30. Hein, et Patou, comme Poiret, déjà va devoir lui aussi fermer sa maison pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il est mobilisé, Poiret aussi, lui, tous les deux. C'est pour ça, elle reste, mais les hommes, ils sont partis au front en 1914. Donc, après la guerre, Poitou, il relance son activité dès les années 20 et il ouvre le sportswear. Et il habille, par exemple, la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. C'est lui qui a l'idée de lui mettre un bandeau, une jupe courte, etc. Il va lancer cette mode. Et Jeanne Lanvin va suivre ce sportswear et le confier aussi à un membre de sa famille. Et en effet, dès les années de la guerre de 14, elle donne des noms à ses tenues, du contexte historique, de la conjoncture. Par exemple, pendant la Première Guerre, il y a une robe qui s'appelle Gouraud, en hommage au général Gouraud, qui était le vainqueur des Dardanelles. Une autre s'appelle Ruski, au moment de la sortie des Russes de la guerre. Une autre s'appelle En avant, par exemple, pour donner un peu de courage. Et pendant les années 20, les années folles, c'est plutôt Fumée d'opium, L'oiseau bleu, pour répondre au contexte et à la conjoncture, et à Marguerite, et qui fume avec Jean Cocteau et ses amis de l'opium. Et puis, dans les années 30, on voit même le 6 février 34, j'ai trouvé très intéressant en faisant l'analyse du nom des robes. La robe s'appelle espionne, fugitive. Vous voyez, c'est un peu un climat difficile, un climat tendu à ce moment-là. Et puis, 1940, alors là, c'est formidable. On peut avoir une analyse de la Seconde Guerre mondiale à travers le nom des robes de Jeanne Lanvin. Au début de la guerre, 1939, l'abri, la robe, la collection. Puis, juste quelques temps après, j'ai froid, je fais de la bicyclette, je prends le métro, RAF, bientôt. Donc, on voit que c'est un hommage à la Royal Air Force. Et puis, au moment de la libération, vous le disiez, chewing-gum. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, elle suit le contexte, elle est en plein dedans, dans son temps.
Merci beaucoup, Martine Allaire, d'avoir déroulé avec nous le fil de la vie de Jeanne Lanvin. Je rappelle que votre biographie, Jeanne Lanvin, une griffe, un destin, paraît aux éditions Talendier.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui nous en font voir de toutes les couleurs. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans le ton de l'émission puisque vous nous racontez Elizabeth Montagu, l'une des toutes premières féministes anglaises qui a fondé un drôle de cercle, la Société des Bas Bleus.
Mais oui, en effet, et ainsi que je vous le disais tout à l'heure, en France, un bas bleu, c'est une expression péjorative. Ça désigne une précieuse ridicule, une femme un peu pédante qui se pique d'écrire ou de parler philosophie. Et c'est même étonnant de penser comment ce mot, qui était plutôt élogieux en Angleterre, est devenu aussi déplaisant en franchissant la Manche. Parce qu'en effet, en anglais, blue stocking, c'est un mot qui est attaché au nom d'une femme brillante dont la culture et l'intelligence firent en leur temps l'admiration des personnalités les plus influentes, les plus douées, les plus en vue de leur époque, qu'elles fussent artistes, philosophes, écrivains, politiques ou simplement passionnées de littérature. Alors cette femme est Elizabeth Montagu. Elle est née en 1718 et morte en 1800 et elle est considérée comme une des toutes premières féministes anglaises. Alors, Elizabeth Montagu, dans sa jeunesse, est un peu façon Jane Austen. Elle avait des idées très arrêtées sur l'inféodation des femmes dans le mariage et donc, elle avait décidé de ne jamais se marier. Elle voulait pas se donner un maître et puis finalement, peut-être fine mouche d'ailleurs, elle épouse en 1742, à l'âge de 24 ans, un homme qui a pratiquement 30 ans de plus qu'elle. Et qui a fait fortune dans le charbon, qui est par ailleurs membre du Parlement. Alors c'est un homme immensément riche et cette fortune va permettre à Elizabeth de tenir chez elle un salon particulièrement brillant et animé où elle-même et ses amis échangent des idées et discutent en toute liberté de leur goût littéraire. Au début c'est un tout petit groupe. Et puis de plus en plus les hommes y viennent et ils discutent d'égal à égal avec les femmes, ce qui est quand même un truc extrêmement nouveau pour cette époque. Et à l'époque, et nous voilà l'origine de cette expression du bas bleu, la bienséance exige que quand vous êtes invité dans un salon, vous devez porter des bas de soie noire. Il y a quand même vous savez, quand on sort en ville, il y a des codes extrêmement stricts sur la façon dont vous êtes vêtu. Donc il faut des bas de soie noire. Or, un jour, le botaniste et éditeur Benjamin Stilling Flitt, qui est un brillant esprit, lui, il n'a pas les moyens de s'offrir des bas de soie noire et il se présente chez Elizabeth Montagu avec des bas tous les jours en laine peignée bleue. Et alors, il est un peu gêné quand même, shocking, des chaussettes bleues pour aller dans le monde. Et Elizabeth Montagu le met à l'aise en lui rappelant que son salon est plus sensible à la qualité et à la hauteur des propos échangés qu'au respect des règles vestimentaires inutiles et socialement humiliantes. Et cet épisode avec Benjamin Stilling Flitt lui inspire aussitôt le nom de son cercle littéraire, The Blue Stockings Society, la Société des Bas Bleus, cercle dont l'objet majeur sera d'encourager l'éducation pour tous et la réforme sociale, mais aussi bien sûr l'édition et la promotion de la littérature. Voilà, l'expression bas bleu est née. En 1770, le domicile d'Elizabeth Montagu dans la rue Hill est le premier salon de Londres. Il ne désemplit pas, les auteurs s'y pressent, qui savent bien qu'en plus elle est une généreuse mécène et donc elle finance l'édition d'un certain nombre de recueils et de poèmes. C'est aussi une grande philanthrope. Alors, chaque année, elle fait un immense repas chez elle pour les ramoneurs de Londres. C'est bizarre. Alors, elle s'est toquée des ramoneurs. Bon. Et par ailleurs, elle écrit Elizabeth Montagu en réaction aux positions sarcastiques de Voltaire sur Shakespeare. Elle publie un remarquable essai sur le génie de celui qu'elle considère non seulement comme le plus grand auteur anglais, mais comme le plus grand écrivain de tous les temps. Et Voltaire lui répond. Voltaire lui répond par le truchement d'une lettre à l'Académie française. Vous voyez, donc, Elizabeth Montagu, Queen of the Blue Stockings, polémiquant d'égal à égal avec Voltaire. Et oui, parce que contrairement aux misogynes de tout poil qui qualifiaient un peu vite de bas bleu toute femme s'intéressant de trop près aux choses intellectuelles, Voltaire est un grand ami des femmes et on sait notamment qu'il encouragea sa maîtresse. Émilie du Châtelet, dont vous avez déjà parlé ici, messieurs. Il l'a encouragé à mener des recherches scientifiques. Il écrivit d'ailleurs à son sujet « Jamais une femme ne fut si savante qu'elle et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle, c'est une femme savante. Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire et jamais n'en parla pour se faire remarquer. » Les écrivains et critiques qui, au siècle suivant, qualifiaient avec condescendance de bas bleus toute femme qui, à leurs yeux, s'intéressait de trop près aux choses intellectuelles, comme ce fut le cas pour George Sand au 19e, aurait pu prendre utilement exemple sur Voltaire, qui, lui, savait très bien faire la différence entre une femme savante et une précieuse ridicule.
Bravo.
Et voilà, messieurs, désormais, vous savez ce que c'est qu'un bas bleu.
Merci beaucoup, Clémentine.
Vous n'êtes ni précieux ni ridicule, et pourtant, vous allez vous affronter dans le quiz Bern to be alive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Je vais vous dire, je suis là des rumeurs et des colibés qui entourent cette séquence du quiz. Je ne laisserai plus personne dire qu'elle est cousue de fil blanc. Si c'était vraiment truqué, ben là, par exemple, je pourrais déjà vous donner le nom du vainqueur aujourd'hui. C'est Stéphane Bern. Ah non, oups ! Ah non, c'est vrai, je ne sais pas. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, première question, elle est pour vous. Commençons ce quiz en bonne compagnie avec Clovis. Il a eu 3 sœurs. Laquelle n'est pas une sœur du célèbre roi des Francs ? Attention, je vous donne 3 possibilités. Albofled, Amofled, Odofled. Laquelle n'est pas une sœur de Clovis ? Ah, Stéphane, normalement, les questions sur les rois et reines...
Oui, mais là, ça remonte très loin.
Ça remonte trop loin.
Je connaissais son épouse, mais alors ses sœurs...
Sœurs, oui.
Moi, je trouve que celui des noms qui me paraît le moins mérovingien, c'est le premier. Almofled, non, pas vous ?
Albofled. Amofled. Odofled.
Odofled, ça me paraît très possible.
C'est très mérovingien. Non, je dirais le dernier. C'est pas dernier, c'est pas sa sœur.
Vous dites que Odofled n'est pas sa sœur.
Non.
Vous ne la sentez pas.
Pas du tout.
Odofled, vous la sentez pas.
Vous avez perdu.
Piètre connaissance des Mérovingiens.
Oui.
Franchement.
Alors, qui passe à ça?
C'était Amofled, évidemment.
Bah, c'est ce que je vous ai dit.
Tout le monde le sait.
Bah, oui, c'est ce que j'ai dit.
Non, c'était Aldofled.
Non, bah oui, mais c'était le premier. J'avais mal entendu. Mais c'est le premier qui.
Voilà.
Non, c'est le premier. J'ai dit que c'est le premier qui me paraissait le moins crédible.
Et là, c'est le deuxième. Toujours sur ses pattes.
C'est vrai? C'est le deuxième.
Oui.
Alors, excusez-moi.
Il avait également une autre sœur qui s'appelait Lentilde.
Oui.
Ah bah oui, Lentilde n'est plus connue.
Lentilde, là, ça nous dit quelque chose. Et comment s'appelait ça?
Il y avait Basile, il y avait... Vous saviez qu'il avait des sœurs, vous?
Mais c'est moi qui ai écrit les questions du quiz, vous le savez bien.
Non, c'est très bien.
C'est moi, basé sur ma culture personnelle.
Vous découvrez cela à 15h58.
Donc le premier, Aldofled, existe bien.
Oui, tout à fait. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Alors attention, celle-ci est intéressante. On dit compter fleurette, très certainement à cause d'Henri IV qui flirtait avec la fille d'un jardinier qui s'appelait Fleurette. Totalement faux ou sûrement vrai?
Compter fleurette. Flirter vient bien de compter fleurette, ça oui c'est sûr. Non, je ne pense pas, non. Non, je pense que... De toute façon, Henri IV, il a dû consommer quelques centaines de jeunes créatures en tout genre. Donc, il y en ait une qui soit appelée Fleurette, why not? Je trouve que c'est pas tellement un... Ça me paraît pas tellement un prénom d'époque, vous voyez, où on donnait plutôt des noms des saints du calendrier. Je pense que compter fleurette vient davantage du fait qu'on le fasse en vers ou par des sonnets ou par un langage fleuri. Non, je dis non.
C'est fou comme un merveilleux raisonnement peut aboutir comme ça à une mauvaise réponse. C'est terrible, c'est dramatique. C'est sûrement vrai, figurez-vous. Fleurette de Nérac a été une des premières maîtresses du futur Henri IV.
Fleurette alors.
Fleurette de Nérac, une des premières maîtresses du futur Henri IV. Si vous allez dans la ville de Nérac, dans le Lot-et-Garonne, il y a une statue de cette demoiselle où il est inscrit « Fleurette, à peine ils s'étaient vus qu'ils s'aimèrent d'amour. Elle comptait 16 ans, lui 3 ans de plus. Ravi, Fleurette à cet amour donna toute sa vie. Henri ne lui donna qu'un jour. » Question numéro 3 pour vous, Stéphane.
C'est bien les hommes, ça.
Si les singes savaient s'ennuyer, ils pourraient devenir des hommes. Goethe. L'auteur allemand a beaucoup fait pour la consommation de patates. Comme il en raffolait, il a rassuré la population sur cette nouvelle mode alimentaire. Vrai ou faux?
Goethe raffolait des patates. Kartoffeln salad. Kartoffeln.
Goethe a-t-il été un...
Et c'est là qu'on va découvrir qu'en fait, il détestait. Il détestait la patate, il mangeait que du chou. Il a peu écrit sur la pomme de terre, je crois.
En tout cas, vous ne l'avez pas lu.
Non, j'ai lu les Leiden des jungen Werthers.
Dans le texte,
voilà. Les souffrances du jeune Werther.
Bravo. Mais dans les souffrances du jeune Werther, il ne parle pas de pomme de terre.
Non,
parce que
lui,
c'est un pur esprit, Werther. Il veut se fondre.
Mais là, Stéphane,
il
cite Goethe de mémoire.
Oui, j'ai appris Goethe par cœur.
Bon, vous êtes à deux doigts d'avoir un demi-point, vous, je vous le dis. En plus, supplémentaire.
Écoutez, oui, il adorait les kartoffeln salad, je dirais, oui.
Il adorait.
Ya, ya.
Ya, ya.
Vous avez et ça devient une habitude encore perdue.
Et alors, on peut dire à la régie de se passer de ses commentaires, parce que ça devient quand même très insultant. En plus, des gens qui savent à peine lire et écrire.
Oui. Faux, Stéphane, c'est faux. Alors, non seulement en régie, ils savent lire et écrire, mais ce qui est faux, c'est qu'ils détestaient la pomme de terre.
Ah bon,
il n'aimait pas ça du tout.
Oui.
Et il les trouvait même impropres à la consommation. Longtemps, on a cru que la patate appauvrissait les terres et qu'elle tuait les rats plus efficacement que l'arsenic. Oui. Rendez-vous compte. Question numéro 4 pour vous, Clément. La fête de la Saint-Jean d'été fut longtemps l'occasion d'allumer de grands feux de joie.
Mm-hmm.
Louis XIV a été le premier roi à refuser d'allumer lui-même le plus grand feu de la ville, place de Grève. Vrai ou faux ?
Il aurait été le premier roi à refuser d'allumer un feu de la Saint-Jean ?
Mm.
Et pour quelle raison ?
Peur des incendies, sans doute.
Louis XIII aurait allumé les feux de la Saint-Jean et pas Louis XIV ? Est-ce que la première fois qu'on lui a demandé de le faire, c'était pendant l'été, il faisait très sec, il a eu peur des incendies ?
La fronde peut-être et puis son...
On ne lui aurait pas demandé à 5 ans de...
Non, mais après il n'aimait pas venir à Paris.
Ah, il n'aimait pas parce qu'il n'aimait pas Paris. Il a dit, puisque comme ça, je n'allumerai pas le feu de la Saint-Jean. On croyait qu'il était mesquin comme
Lancez-vous.
Ça.
Lancez-vous. Louis XIV a été le premier roi à refuser d'allumer lui-même le plus grand feu de la ville, place de Grève. Vous dites non.
Vous avez... gagné.
Vous avez raison, Clémentine. Pourquoi ?
Bravo.
Car c'est ne pas le premier, mais le dernier roi à l'avoir fait. Louis XIV, en revanche, était le premier à interdire le sacrifice d'animaux vivants qu'on lançait traditionnellement dans le feu, Stéphane. Et oui, mettait souvent des sacs remplis de serpents, de rats et même de chats. Vous imaginez, Stéphane,
c'était
formidable.
Ah bah oui, un chat noir, met des chats noirs sur le bûcher des sorcières.
Bravo, vous avez gagné le quiz.
Ah bah d'un point, dis donc, c'était minable notre partie d'aujourd'hui.
Oh bah écoutez,
c'est les questions... Au dos vert, au
Les questions étaient difficiles et vous connaissez mal les Mérovingiens, malheureusement. Oh, la question 5 était gratinée, c'est pas grave, ça sera demain.
Vous connaissez mal les Mérovingiens.
Mais oui, mais voilà, vous avez des points faibles, il faut les souligner.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter, en compagnie d'un garçon jeune encore mais qui n'est plus un bleu.
Contrairement à nos personnages du jour qui le seront toujours bleus.
Après Jeanne Lanvin, je vous raconte le dessin d'un peintre au célèbre monochrome dont un bleu porte désormais le nom. Yves Klein.
Lui, ce n'est pas un bleu, mais un stade qui portera un jour son nom. C'est Didier Deschamps, le chef des bleus, joueur puis sélectionneur au palmarès inouï. D'où lui vient cette phrase de vainque, cette soif de titre qui l'anime depuis ses débuts ? Réponse dans une vingtaine de minutes, mais regardez qui nous a rejoint, Stéphane, ces deux solides gaillards.
Est-ce la Gestapo ?
Non, Stéphane, c'est David et Olivier.
Mais oui, c'est la veste de David. Mais ça induit en erreur.
Oui, non, c'est vrai.
Pour une fois, il l'a pas.
Pour une fois, je ne l'ai pas.
Vous
mais
avez
j'ai
enlevé
la
gabardine.
Mais j'ai toujours ma chemise bleue ciel de chez H&M. Voilà. Qui pourrait être aussi de chez Zara ou de chez une troisième marque.
L'important, c'est qu'elle soit wrinkle-free.
Exactement, wrinkle-free. Donc oui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, moi ?
Eh ben,
je vais...
Est-ce que vous en avez vous-même une idée ?
Non, je vais parler du syndrome du cœur brisé. Quand la tristesse peut nuire à notre santé.
Parce que le syndrome du cœur brisé est un truc physiologique.
C'est un truc physiologique, médical. C'est un lien, disons, entre la psychologie et des fonctions
alors,
vitales.
Attendez, moi, je suis hypochondriaque, ça me fait peur votre chronique, en fait.
Peut-être.
Imaginez que tout le monde peut le contracter.
Tout le monde peut le contracter, mais vous avez l'air assez joyeux comme personne, donc je ne pense pas que
c'est vrai, je suis joyeux notamment grâce au bleu d'Auvergne, Stéphane.
Ah oui.
Ah, le bleu.
Vous aimez la moisissure sur le fromage.
J'aime les moisissures.
Oui, mais parce qu'après avoir eu le cœur brisé, on peut peut-être se retourner vers la nourriture, c'est réconfortant.
Oui, parce que le contraire, si vous voulez, c'est souvent. Ça peut briser des cœurs parce que l'odeur,
L'odeur du
bleu d'Auvergne, Roquefort.
Si vous êtes célibataire, vous pouvez y aller tranquille. Hein,
oui,
là,
oui.
Je vous confirme.
Mais on risque de le rester longtemps.
C'est possible, mais c'est un choix. Hein. Je vous raconterai d'où vient ce fromage, le bleu d'Auvergne. Oui, mais il a une histoire vraiment amusante.
Enfin, les amis, durant l'ultime séquence de cette émission, ce ne sont pas les cœurs qui se brisent, mais les cerveaux sur les questions vachardes de ce quiz fratricide qu'on appelle la lutte finale. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième bleu de l'histoire. Quelques mauvaises langues moquent ces monochromes en disant que n'importe quel enfant de 5 ans aurait pu les réaliser.
C'est moi ?
Non, Stéphane, vous respectez le travail de cet artiste qui a fait du bleu plus que sa signature, son emblème. La preuve, vous nous racontez maintenant le destin du peintre Yves Klein.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si l'histoire de l'art retient Yves Klein comme le plus grand artiste français de la seconde moitié du XXe siècle, c'est justement parce que son parcours artistique est plus que visionnaire.
Yves Klein est né à Nice en 1928 de deux parents peintres. Il est tenté de rejeter le monde de l'art et en opposition à ses parents artistes, il veut devenir judoka. Mais c'est justement au club de judo où il s'entraîne que l'art le rattrape. Il y rencontre Armand, le futur sculpteur, qui deviendra célèbre pour ses accumulations. Mais il y rencontre aussi le poète Claude Pascal. Dans cette après-guerre, à Nice, les trois amis frottent leurs cervelles les unes contre les autres. Le judo les a réunis et il a ses valeurs. Mais en échangeant ensemble, ils abordent des quêtes plus personnelles et plus abstraites, plus métaphysiques aussi. À 25 ans, c'est au cours d'un voyage au Japon, alors meurtri par Hiroshima et Nagasaki, que Klein découvre le shintoïsme. Il est subjugué par la force de cette croyance qui manifestement aide le peuple nippon à se relever en s'appuyant sur une spiritualité très en lien avec l'idée de pureté. Une notion de pureté qui sera fondamentale pour la suite. Mais n'imaginez pas Yves Klein comme un pur esprit. C'est aussi un fanfaron. En 1954, de retour en France, il conçoit une plaquette qui aurait été consacrée à son œuvre pour une exposition qui n'existe pas, mais qui lui serait entièrement consacré, il l'intitule « Yves Peinture ». Quelques mois plus tard, Klein passe à l'acte et se met réellement à peindre des monochromes sans se décourager face à ceux qui refusent de l'exposer. Dès 1955, ces monochromes sont finalement accrochés au Club des Solitaires. L'endroit n'est pas une galerie d'art, mais les salons privés d'une maison d'édition parisienne. Là, plusieurs couleurs coexistent. Klein réalise des monopinks, des monogolds, qui avec le bleu constitue sa trilogie des couleurs bleu, or, rose. Mais très vite, Klein décide de n'en utiliser plus qu'une seule, le bleu qui est pour lui, je le cite, la seule couleur qui n'a pas de limite. Il ne peindra plus que des monochromes bleus. Mais pour aller jusqu'à l'aboutissement radical de sa démarche, Yves Klein fait déposer un bleu rien qu'à lui, qu'il surnomme IKB, International Klein Blue. En réalité, ce n'est pas tant un bleu qu'il dépose, mais plus matériellement une peinture. Il l'a conçue de manière à ce que chacun de ses pigments reste indépendant l'un de l'autre. Selon lui, sur la toile, cela permet d'obtenir, selon ses propres mots, une masse rayonnante. C'est donc, en réalité, le fixatif de ses pigments qui est breveté. Pour parfaire sa démarche artistique, Yves Klein ne peint qu'au rouleau, ce qui lui permet de ne pas écraser la peinture sur la toile et de ne pas s'exprimer, pour reprendre ses mots, dans ses œuvres. L'artiste et sa psychologie se retirent au profit de l'œuvre seule. Et lorsque les toiles sont exposées en lumière naturelle, on peut les voir évoluer au fil des heures de la journée, comme mouvantes. Aussitôt le bleu Klein inventé, Yves Klein enchaîne les expositions dans des galeries à Paris, à Marseille, à Milan, Londres ou Düsseldorf. Klein s'exporte partout. Il suscite l'intérêt et l'étonnement. Les critiques d'art les plus renommées voient du génie dans son œuvre. D'autres, à l'œil moins aiguisé, ne voient en ses toiles que des pantalonnades. Mais le principal est qu'elle commence à se vendre. Pendant ce temps, à Paris, ses copains de judo ne sont pas toujours tendres avec lui. Dès qu'il se pointe au café Le Select, boulevard Montparnasse, il a droit à la sempiternelle moquerie. Alors Klein, toujours bleu ? Oui, toujours. Yves Klein est certain d'avoir atteint la pureté et l'abstraction par ses monochromes. Il se met à lire Bachelard qu'il découvre sur le tard. À 30 ans, sa mère lui offre L'air et les songes pour son anniversaire. Je dois dire que ça a été pour moi une révélation de ne plus me sentir tout à fait seul, avouera-t-il. Il aime sa philosophie de la rêverie et de l'oisiveté. La même année, avec la complicité de la galerie Iris Clair, qui participe à l'émergence du nouveau réalisme, il organise un vernissage hors du commun. Les invités ont reçu un carton d'invitation bleu, le timbre est bleu lui aussi. Quand ils arrivent devant la galerie, dont toute la devanture est peinte de bleu, on leur sert un cocktail bleu à base de bleu de méthylène. Des cerbères surveillent l'entrée et obligent les invités à ne rentrer que deux par deux. Mais en entrant dans la galerie, les visiteurs découvrent un bras interloqué qu'elle est entièrement vide. Pas une toile, pas une œuvre d'art, rien n'a été accroché sur les murs blancs immaculés. Iris Clair et Yves Klein sont bien là pour accueillir leurs invités, les accueillir simplement. Ils ont organisé un tel événement pour ne rien vendre. C'est un nouveau pied de nez au monde de l'art et un pas de plus pour montrer de quoi l'art contemporain est capable. Dès le lendemain, des articles de presse, écrits par des critiques visiblement agacés, désignent l'exposition qui jusqu'alors n'avait pas de nom, comme l'exposition du vide. Eh bien, imaginez qu'Yves Klein lui-même adopte l'expression. Désormais, les historiens de l'art nommeront cette performance « exposition du vide ». Et dans la démarche d'Yves Klein, c'est une victoire. L'artiste est parvenu à exposer plus que l'abstraction, il a exposé l'immatériel. Si pour lui le bleu est infini, c'est aussi parce que c'est la couleur du ciel. L'infini, l'immensité, le cosmos, il est parvenu à le représenter. Sa démarche est tout à fait novatrice et singulière pour l'époque. Yves Klein affirme que ses tableaux ne sont que les cendres de son art. Comme si Klein déclarait que ce ne sont pas les artistes qui créent les œuvres, mais les œuvres qui créent les artistes. Une fois ce concept posé, Yves Klein décide d'aller encore plus loin. Dans son atelier, il convie des femmes pinceaux. Ces femmes, nues, enduisent leur corps entier de pigments de peinture bleu Klein. Elles appliquent ensuite leur corps sur les toiles. Klein assiste à la scène, sans plus avoir à se salir les mains, sans même toucher à ses toiles. Il vient d'inventer un nouveau concept, toujours un monochrome, mais plus que la notion de vide contenue depuis des années dans son bleu, ses toiles explorent désormais la notion de trace et les corps des femmes leur confèrent une part de sensualité. Là, le monde de l'art est impatient de découvrir sa prochaine invention, mais malheureusement, Yves Klein meurt d'un infarctus à l'âge de 34 ans. En seulement 8 ans, il a inventé le principe du monochrome et déposé son bleu légendaire, à jamais associé à son nom qui lui continue de vivre à l'infini, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à percer le mystère Yves Klein, nous avons le plaisir d'accueillir l'historien de l'art Denis Rioux. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Yves Klein, dont Yves Klein, l'aventure monochrome et Yves Klein, manifester l'immatériel aux éditions Gallimard. Yves Klein est principalement connu aujourd'hui, et reconnu dans le monde entier pour ses œuvres monochromes. Est-ce qu'il est le premier à avoir inventé ce concept ?
Alors certainement oui. Il n'est pas le premier à avoir réalisé des peintures unies d'une seule couleur, mais il est le premier à les avoir nommées ainsi avec l'aide du critique d'art Pierre Restany, qui a été un grand soutien pour lui et qui a inventé un certain nombre de termes. Et c'est Pierre Restany qui nomme ce qu'on pouvait considérer être des tableaux, qui les nomme « propositions monochromes ».
Stéphane l'a raconté dans le récit, au début, quand il commence à peindre ces monochromes, qui n'en sont pas encore, en tout cas dans le titre, personne ne veut l'exposer. Comment ça se passe au début ? Il y a un rejet de ces toiles, une incompréhension ?
Oui, alors il y a effectivement une incompréhension, tout simplement parce que ça ne correspond à rien de ce qui existe à l'époque et ce qui est acceptable comme œuvre d'art. Et par exemple, il veut présenter un tableau orange dans un salon dans lequel sa mère est un membre éminent, participe, sa mère qui est peintre abstrait. Et le jury, le comité est tout à fait désappointé devant ce tableau. Et ils finissent par faire savoir, par l'intermédiaire de sa mère, au jeune Yves Klein, que non, une couleur unie seule, ça n'est pas suffisant. Ajouter quelque chose, un point, quelque chose tout de même. Et donc, ça n'est pas recevable. Et c'est précisément parce qu'on les a ainsi nommés et ainsi promus que ça l'est devenu.
Mais je le disais, avant le bleu, Klein a testé d'autres couleurs. Il y avait le rose, il y avait le doré. Pourquoi il ne les a pas gardées, celles-là ?
Alors d'une certaine manière, il les a gardées, puisqu'il n'a pas peint que des monochromes bleus. Il a peint aussi des tableaux avec des feuilles d'or, et il a peint aussi des roses. Et puis avant, il avait effectivement réalisé toute une série de monochromes de diverses couleurs. Et précisément, c'est à la suite de la première exposition véritablement publique dans la galerie Colette à Landy qu'une discussion est organisée avec les regardeurs. Et au fond, les personnes qui sont là considèrent non pas chacune des... Ça n'est pas tout à fait pour eux une proposition monochrome, chacune des œuvres exposé dans son indépendance, il voit le mur dans sa globalité et il reconstitue ce que Klein a nommé une polychromie décorative. Et donc, pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit véritablement de présenter des œuvres d'une seule couleur, il se dit « je ne vais exposer que des tableaux de la même couleur ». Et donc là, il choisit le bleu.
Et alors justement, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il tranche en faveur du bleu plus qu'une autre couleur ? C'est celle qui l'inspire le plus ? C'est celle qui est la plus riche à ses yeux ? C'est quoi ?
Oui, lui, il a dit que les autres couleurs avaient des limites alors que le bleu était infini. Mmh. Mais enfin, tout ça, pourquoi pas, après tout.
Vous pensez que c'est du marketing ?
C'est certainement... Non, je pense qu'il est parfaitement sincère. Je pense aussi que c'est un niçois, le ciel bleu, l'infini. Il y a un autre élément qu'il faut considérer, je crois, c'est que D'ailleurs, dans ce studio, voyez-vous, tout il y a du bleu un peu partout. Klein l'ignorait, ce que je vais vous dire, bien sûr. Mais le bleu est la couleur préférée des Occidentaux. C'est très, très important. Et donc, quand on se dirige vers une couleur, au fond, la plupart des gens disent le bleu. Voilà, le bleu.
Klein a remplacé le pinceau par le rouleau pour ne pas qu'on reconnaisse son trait. Finalement, on n'a pas l'assurance que c'est lui qui peignait l'étoile. C'est ce qu'il voulait. Au fond, il pensait que peu importe qui l'a faite, l'œuvre existe en tant que telle.
Ah non, alors, des artistes avant lui ont été dans cette logique hein, de faire réaliser des travaux par délégation, de faire réaliser par d'autres et de le revendiquer. Klein, pas du tout. Klein, il ne veut pas s'exprimer lui-même. En réalité, tout simplement, il veut se démarquer des expressionnistes de son époque et notamment des peintres gestuels tels, par exemple, Georges Mathieu. Mais en revanche, c'est lui qui imprime quelque chose de tout à fait particulier, d'unique. Le moment poétique est saisi, capté par la couleur au moment où il le peint. C'est donc véritablement important que ce soit lui qui le peigne.
Sa carrière a été fulgurante, mais courte, malheureusement, parce qu'il est mort. Il est mort brutalement. On sait quels étaient ses autres projets qu'il avait en tête et qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser.
Sa veuve, Rothrottweker, a toujours dit que d'abord il savait qu'il allait mourir jeune et qu'ensuite ce qui l'attirait, ce vers quoi il allait, c'était l'immatériel. Il disait « j'aurai bientôt le plus grand atelier du monde et c'est là que je réaliserai les œuvres immatérielles qui rayonneront sur la terre entière ». Voilà. Donc l'immatériel.
Aujourd'hui, c'est toujours un artiste qui compte dans le monde de l'art. Je crois que ses toiles se vendent très cher, y compris tout ce qui est né après Klein. Il y a par exemple des tables avec les pigments bleus.
Alors oui, mais c'est lui qui les a conçues.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Donc, non, mais, oui, bien sûr.
Mais elles sont reproduites, je veux dire.
Oui, bien sûr. On peut continuer à les réaliser. Alors, Klein, c'est un artiste qui compte énormément aujourd'hui. Le marché l'atteste, mais pas seulement. Je vais vous donner un exemple qui me paraît très significatif. Klein a bénéficié d'une très grande rétrospective en 1983 au Centre Georges Pompidou. Et puis, beaucoup plus proche de nous, en 2006, il a bénéficié d'une deuxième rétrospective, d'une seconde, je ne sais ce qu'il faut dire. C'est le seul artiste à avoir bénéficié de deux rétrospectives dans ce lieu prestigieux qu'est le Centre Georges Pompidou. C'est significatif, disons, de son importance et de sa présence encore aujourd'hui.
Mais merci beaucoup, Denis Rioux, de nous avoir fait voyager dans le bleu de Klein. Je rappelle votre ouvrage Yves Klein, l'aventure monochrome, et j'en profite également pour citer votre dernier livre, toujours consacré à l'artiste, Yves Klein Japon, publié aux éditions Dilecta.
Merci
à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui voyaient la vie en bleu. Après Jeanne Lanvin et Yves Klein, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon à 99% vrai, de celui qui dirige les bleus, Didier Deschamps.
On a tous, mon cher Stéphane, des personnes qui nous inspirent, qui nous rendent heureux rien qu'en prononçant leur nom. Vous, c'est Marie-Astrid de Luxembourg. Moi, c'est Didier Deschamps. Et il n'a pas moins de titres, ce sont juste pas les mêmes. Je pourrais chialer en prononçant le nom de Didier Deschamps, et non, pas seulement pour 98 et 2018. Entre Didier et moi, ça remonte à bien plus loin, à ce soir de mai 93 où il fut le premier à soulever celle qu'on appelle la coupe aux grandes oreilles.
Clémentine Portier-Kaltenbach.
Non Stéphane, la Ligue des Champions. Avec ce club qui restera à jamais le premier, l'Olympique de Marseille. Comment un petit bonhomme culminant à 1m74 et portant le nom d'un artisan tripi auvergnat a-t-il pu changer à jamais le foot français ? Car ne vous y trompez pas Stéphane, Didier a changé à jamais le foot français. Avant Didier, le foot c'était joli, joli comme une chanson de Carla Bruni.
Pourtant, quelqu'un m'a dit,
on avait des grands joueurs, mais il y avait une forme de fatalisme dans l'état d'esprit français. Le foot était un sport qui se jouait à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnaient. On avait fini par l'intégrer, on aimait bien se regarder jouer, on trouvait déjà super d'aller en demi-finale. Et puis Didier est arrivé et il a dit
« Allez tous vous faire foutre ».
Plus poliment, parce qu'il n'est pas sanguin comme vous Stéphane. Mais Didier, il n'avait pas grandi en écoutant Carla Bruni. Il pensait pas que finir deuxième c'était pas si mal. Il pensait que c'était tout pourri, alors il a changé de disque. Au-delà d'avoir été un superbe joueur puis un immense sélectionneur, Didier a tout simplement importé la notion de gagne en France. Il voit le jour le 15 octobre 68 à Bayonne, en fin d'après-midi pendant les JO de Mexico. Son père n'est pas là, il est à la chasse avec des potes. précision de Wikipédia intéressante. Les parents du petit Didier, Pierre, peintre en bâtiment, et Ginette, vendeuse de laine, qui était visiblement un métier à l'époque, l'élèveront dans la campagne basque et dans le respect de ces belles valeurs simples que sont l'honnêteté, l'intégrité et le goût du travail bien fait. Quoique basque, le jeune Didier ne sera jamais un accro des fêtes de Bayonne. C'est un élève studieux et calme. Ses camarades de l'époque évoquent aussi un garçon pas très à l'aise avec les filles.
Didier, on ne sent pas le cul quand on connaît pas.
Enfant, tôt le football et lui, c'est pas un coup de foudre immédiat. J'aimais surtout jouer, raconte-t-il. J'avais quelques maillots, je regardais l'équipe de France à la télé, mais pour moi, footballeur, c'était pas un métier. Didier aime l'école, la pêche, la chasse, le catéchisme. De là à penser que Didier est chiant, il n'y a qu'un pas que, je sais, David, vous avez déjà franchi. Mais voilà, tout va s'accélérer à l'adolescence. Didier devient accro au sport, tous les sports, hein, foot, natation, cross-country, demi-fond. Il est même sacré champion de France scolaire sur 1000 mètres. Ça ne lui suffit pas. Handball, pelote basque, saut en longueur, rugby. C'est à 11 ans qu'il opte pour le football et rejoint l'aviron bayonnais. Fini le gamin timide. Sur le terrain, il se révèle immédiatement un meneur d'hommes. Sa niaque, ses capacités physiques et sa haine de la défaite le propulsent dans les sélections régionales puis nationales. On s'arrache ce besogneux milieu défensif et de tous les clubs pro qui le sollicitent, il va choisir le FC Nantes. Pourquoi ? Alors pas pour l'océan, Stéphane, mais parce que, je cite, c'est le club qui me donnait des certitudes au niveau scolaire. Oui, Didier reste chiant, mais plus très longtemps, car il va bientôt croiser la route de son antithèse, on peut le dire, un mec sévèrement burné, comme on disait à l'époque, qui va le propulser à un tout autre niveau. Ce mec, c'est bien sûr Bernard Tapie. Quand il débarque à l'Olympique de Marseille, Nanar vient de reprendre le club. Il a des objectifs immenses, gagner le championnat et la Ligue des Champions. Pour ça, il injecte des sommes folles dans le but de recruter des stars. Et à l'époque, Didier, c'est tout sauf une star. C'est même une anti-star. C'est pas un joueur flamboyant. Il fait, disons, le sale boulot, celui qu'on voit pas. Et au départ, on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais Tapie ne veut pas de Deschamps. Mais Didier décide de le faire changer d'avis. Il se pointe dans son bureau. Il lui explique que lui sait peut-être pas faire le coup du sombrero, mais qu'il est un vrai leader et que pour coordonner toutes les stars sur le terrain, il va falloir un vrai leader. Tapie lui donne 2 mois pour lui prouver qu'il sert à quelque chose. Sinon, c'est transfert à Guingamp.
Quelle horreur.
Comme vous dites, Stéphane, la suite appartient à l'histoire du foot français. L'OM gagne tout, championnat de France, Coupe de France et même en 93, Coupe des clubs champions. Une coupe qu'il remportera à nouveau avec la Juventus Turin quelques années plus tard. Avec l'équipe de France, ça sera plus laborieux. Il sera des campagnes ratées 90 et 94, mais loin de le démoraliser, ça lui donnera encore plus de rage. Une rage de vaincre qui explosera en 98. On gagne la Coupe du Monde en 2000, l'Euro. Dédé, le capitaine, devient ensuite Dédé, le sélectionneur. Avec tout autant de succès, puisqu'en 2016, on est finaliste de l'Euro. Et en 2018, oups, we did it again. Didier n'est plus alors un être humain, mais un dieu de la win. La presse est fascinée. Gala publie une capture d'écran d'un de ses posts Instagram avec cette légende. Didier Deschamps et ses abdos en béton. À 52 ans, il enflamme la toile. Petit point fitness, les amis. Combien vous tenez en gainage dans la position de la planche ?
45 secondes.
45 secondes.
3 minutes, vous l'avez vérifié.
3 minutes, ce qui est déjà énorme, faut le préciser à nos auditeurs qui n'ont jamais fait
une minute.
Ouais. Une minute. Ouais. Alors Didier Deschamps, d'après vous, combien il tient aujourd'hui, hein?
Bah, 12 minutes.
Une heure, 60 minutes. Ah, il faut le voir pour le croire, il le fait, au grand dam de sa femme qui se fout de sa gueule.
Didier l'avoue lui-même. Peut-être en faisant
et,
ça.
Et oui, ouais. Il est encore plus affûté que lorsqu'il jouait. Alors, ma foi, est-ce que c'est la crise de la cinquantaine? Didier a-t-il largué sa femme, la mère de ses enfants, pour s'acoquiner avec une influenceuse slovène de 22 ans, dont le profil Insta indique modèle attachante, entrepreneuse, world traveler et bonbon addict, prénommée Evgenia? Pas du tout. Sa femme s'appelle Claude. Elle est bretonne. Il l'a rencontrée à Nantes en 1985. Elle a donc aimé ses dents d'avant. Alors, soyons très clairs, ne comptez pas sur moi pour dire quoi que ce soit de négatif sur Didier Deschamps. Ses soupçons de dopage en Italie, baliverne de Jean Foutre, légende de vestiaire.
Alors créatine pour tout le monde.
Cette rumeur selon laquelle il devrait nombre de ses succès à une chance hors du commun que certains ont même baptisé la chatte à Dédé. Tout ça est ridicule. Didier, au contraire, c'est l'exemple type d'un homme qui a vaincu par le mental, un homme qui ne supporte pas la défaite. C'est pourquoi il reste à ce jour mon joueur de foot préféré. C'est qui, vous, votre joueur de foot préféré, Stéphane ?
Guy Forget.
Bien. Non, mais alors, oui, j'ai bien fait de ne pas un peu t'en dire sur la carrière en détail.
Sur le tennis, alors.
Oui. En tout cas, j'espère que ce portrait vous aura au moins donné envie de vous dépasser physiquement avec cette histoire de la planche. Je me doute que vous ne faites pas une heure de gainage par jour, Stéphane, mais j'espère que vous entretenez quand même un petit peu.
C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour.
Alors, vous pouvez gainer en même temps, hein, ça s'appelle le gainage dynamique, Stéphane. Vous savez.
Oui. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire adieu, au revoir simplement à nos bleus, pour renouer avec notre quotidien et en découvrir les origines.
Avec nos défricheurs de l'histoire qui aiment aussi le bleu, surtout le premier, quand il est bien fait, Olivier Fons.
Le bleu d'Auvergne, par exemple. Est-ce que vous diriez une petite recette avec du bleu d'Auvergne?
Oh, ça donne envie, mais tout de suite. Eh bien, David Castello-Lopez remonte aux origines.
Aux origines de quoi, Stéphane? De quelque chose. Il n'est pas très rieur aujourd'hui, le syndrome du cœur brisé. Vous avez déjà eu le cœur brisé, Stéphane?
Ça a dû m'arriver, oui, il y a très longtemps.
On a dit beaucoup de mal de la tristesse. On a dit ouais, la tristesse, c'est nul. Mais c'est quand même un sentiment qui a des avantages. Je veux dire, ça permet quand même aux poètes d'écrire des super choses. Ça permet aux crooners de crooner. Ça permet aussi, il faut dire, aux fabricants de sucre de vendre de très très grandes quantités de sucre consommées sous la forme de crème glacée par des gens qui viennent de se faire larguer. Mais si je suis honnête, c'est vrai quand même. Je suis honnête. La tristesse a aussi un certain nombre d'inconvénients. Et notamment, si on en croit la littérature, la tristesse, ça peut provoquer le décès. Les livres, jusqu'au 19e siècle, ils sont pleins de gens qui meurent de chagrin parce que je sais pas qui est décédé, parce que je sais pas qui d'autre a couché avec la voisine. Dans Tristan et Iseut, par exemple, Tristan, il meurt de chagrin parce qu'il croit que Iseut l'a abandonné. Et Iseut, quand elle apprend que Tristan est mort, eh ben, elle meurt aussi. Et puis, il y a une histoire plus récente qui est celle de George Michael. Vous connaissez George Michael, hein?
Oui, mais là, comment tu vas reconnecter à l'origine grecque?
Vous allez voir. Oui, de son vrai nom, Georgios Kyriakos Panayotou. Oui. Hein, eh bien, George Michael, il est mort le jour de Noël en 2016, à l'âge de 53 ans. Il avait une sœur qui s'appelait Melania Panayotou. Melania, elle a été dévastée par la mort de son frère et elle est morte le jour de Noël 2019, soit 3 ans jour pour jour après son frère. Et les journaux anglais de l'époque, ils avaient dit qu'elle était morte de chagrin parce qu'elle s'était jamais remise de la mort de son frère. Alors pendant longtemps, il faut le dire, les esprits rationnels, ils ont pensé que tout ça, c'était un petit peu des conneries, que c'était des extrapolations de poètes et que mourir de chagrin, c'était pas possible. Jusqu'à ce que, dans les années 60, les chercheurs, ils commencent à faire des statistiques sur ce qu'on pourrait appeler la mortalité liée au deuil. Et on a découvert que les gens qui avaient perdu un proche, ils avaient beaucoup plus de chances de mourir dans l'année suivante que les gens qui avaient perdu personne. Donc le deuil, quand on perdait quelqu'un dans sa famille, on avait beaucoup plus de chances de mourir. Et c'est un fait qui a été largement confirmé par d'autres études. Et petit à petit, avec toutes ces études accumulées, on s'est rendu compte que oui, mourir suite à un choc émotionnel, c'était pas que chez Tristan et Iseut, c'était possible. Les premiers qui ont décrit ce syndrome précisément, ce sont les Japonais. Ils ont appelé ça le syndrome de Takotsubo. Takotsubo en japonais, ça veut dire piège à poulpe. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Je parlerai pas. Eh bien, si, et il y en a un, et je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. En gros, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que lorsqu'on est confronté à un choc émotionnel violent, il arrive que notre corps cesse de fonctionner normalement. Et plus précisément, le ventricule gauche du cœur se gonfle démesurément, ce qui le fait ressembler à un piège à poulpe traditionnel japonais.
Oui, d'accord, ça va
loin. CQFD. En gros, certaines personnes, quand elles vivent un choc émotionnel fort, elles commencent à avoir tous les symptômes d'une crise cardiaque, alors même que c'est pas une crise cardiaque. Alors le choc, ça peut être la mort d'un proche, bien sûr, je l'ai dit, mais ça peut aussi être d'autres trucs, comme le fait de perdre une grande quantité d'argent d'un coup, ou même, d'après les médecins, un anniversaire surprise, vraiment très très réussi, ça peut faire ça. C'est vous dire, attention, il arrive, surprise, et
ça vous a fait ça l'autre jour, David.
Ça m'a fait un petit peu ça l'autre jour, mais j'étais plutôt content, disons, mais je suis pas allé jusqu'à la mort, mais il y a des gens, visiblement, qui peuvent mourir. Alors, il y a quand même un mystère avec ce syndrome, un mystère qu'aucun spécialiste n'est parvenu à élucider, c'est que le syndrome de Takotsubo, il touche à 90% des femmes de plus de 58 ans, et on ne sait pas pourquoi ouais. Ça touche non seulement des femmes, mais ça des femmes relativement âgées. Alors, il faut le dire quand même, la plupart du temps, le cœur, il recommence à marcher correctement dans un délai d'à peu près 2 mois. Mais il y a des fois où ça entraîne vraiment la mort. Alors, pour éviter le syndrome du cœur brisé, il y a une seule solution connue, c'est de ne fréquenter personne jamais. Ça, comme ça, pas de cœur brisé. Mais je suis pas sûr que ce soit une méthode très, très joyeuse. Peut-être qu'il vaut mieux risquer de mourir de chagrin plutôt que de ne pas vivre.
Merci beaucoup. David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il a été nourri au Bleu d'Auvergne. Regardez le résultat, c'est magnifique. Ah ouais. Il fait la planche pendant 3 minutes, quasiment autant que Didier Deschamps. Olivier Pouls. Non, on est loin du compte.
20 fois moins.
C'est déjà très bien. Olivier Pouls, le Bleu d'Auvergne est un fromage qu'on adore tous, mais d'où vient-il, à part d'Auvergne? J'espère que vous avez un peu plus de choses à nous raconter.
Oui, évidemment qu'il vient d'Auvergne. Avant le Bleu d'Auvergne, il existait un fromage d'un petit peu du même type dont je vous ai déjà parlé ici,
le Roquefort,
évidemment. Alors, quelle différence entre le Bleu d'Auvergne
c'est
et le Roquefort?
C'est plus fort, le Roquefort.
Et c'est pas le même lait. Le Roquefort...
C'est du brebis.
Voilà, exactement. Et le Bleu d'Auvergne, c'est du lait de vache. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce qu'a été le bleu d'Auvergne, mais c'était une espèce d'imitation du roquefort que l'on faisait avec du lait de vache et qu'on faisait de manière un peu approximative, c'est-à-dire qu'on ne le maîtrisait pas très bien, d'abord parce qu'on n'avait pas dans tous les petits villages d'Auvergne ce qui est le secret du roquefort, c'est-à-dire ces caves absolument incroyables avec ce degré d'hygrométrie, cette température qui aide au développement de ce qu'on appelle le pellicillum roqueforti, c'est-à-dire cette ce bleu, cette moisissure qui fait ce champignon qui fait la saveur et la caractéristique de ce fromage, et on n'arrivait pas à le maîtriser convenablement. Et bien au 19e siècle, il y a un certain monsieur Roussel qui était producteur de fromage, qui a révolutionné complètement la production de ce bleu d'Auvergne et peut-être même la production de tous les fromages bleus en règle générale, parce que alors, à cette époque-là, on ne connaissait pas l'ensemencement. C'est Pasteur qui, plus tard, a découvert notamment les liens bactériologiques qu'il y avait entre l'air extérieur, le développement de la pourriture, etc. Et donc lui, il est parti d'un constat, c'est qu'il avait du pain de seigle, et que le pain de seigle, quand il moisissait, il y avait une espèce de petite pourriture bleue qui se développait dessus. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Si vous laissez traîner un morceau de pain de seigle chez vous, vous allez voir, il y a une pourriture bleue.
Bon, je le vois tous les dimanches matin.
Ben voilà. Ben vous allez chercher du pain frais, mon cher Mathieu, c'est que la boulangerie n'est pas très loin.
Mais c'est toujours cette déception, quand tu vois ton pain, tu crois que t'en as, puis en fait, il est bleu.
Ben voilà, il va chercher. Et donc lui, il s'est dit, ben tiens, si je récupérais cette moisissure bleue et que je la mettais dans mes fromages, ça pourrait probablement aider au développement de la pourriture. Et ça a absolument bien fonctionné. C'est donc lui qui a eu l'idée d'ensemencer le cahier avec cette pourriture pour créer des fromages bleus. Mais en fait, il manquait un petit truc. Il manquait notamment un apport d'oxygène. Et il a eu une deuxième idée, qui était d'utiliser des aiguilles à tricoter pour faire des petits trous dans le fromage, ce qui permettait à l'air de circuler à l'intérieur. Et donc, à cette pourriture bleue, à cette moisissure de se développer. Et on peut vraiment considérer que c'est au milieu du 19e siècle, ce fameux producteur qui a inventé l'histoire et le concept de ces fromages bleus. Alors certains disent qu'auparavant on en faisait déjà, mais on le maîtrisait beaucoup moins.
Mais il y en a en Angleterre aussi, le Stilton.
Oui, c'est bon ça. Mais tout ça est arrivé un petit peu plus tard et dans les mêmes.
Alors, c'est du lait de vache, le Stilton aussi.
Le Stilton, je pense que c'est du lait de vache, oui. À vérifier, mais je pense que c'est du lait de vache. Alors le bleu d'Auvergne, c'est du lait de vache, ça c'est sûr. Traditionnellement, évidemment, du lait de vache cru. Malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité des bleus d'Auvergne que vous allez trouver, et notamment tous les bleus d'Auvergne industriels, c'est du lait pasteurisé ou c'est du lait qui a été thermisé. C'est une appellation d'origine protégée depuis 1959. Et puis, petit fun fact, il y a deux périodes de l'histoire durant lesquelles la production s'est arrêtée. C'est la crise de 1929 et c'est la Seconde Guerre mondiale. Et pendant ces deux périodes, il n'y a pas eu, ou pratiquement pas eu, de production de bleus en Auvergne. Une petite recette.
C'est un sad fact plutôt qu'un fun fact.
Malheureusement, une triste histoire. Alors, une petite recette rapide pour ce soir, en plus de saison. Vous prenez des grosses pommes de terre à chair farineuse, vous gardez la peau, hein, vous l'emballez dans une feuille de papier aluminium, vous les cuisez au four, 45-50 minutes dans un four à 200 degrés. Vous récupérez, vous coupez en deux, vous récupérez la chair, vous écrasez la chair à la fourchette en mélangeant avec une noix de beurre et avec du bleu d'Auvergne, un petit peu de poivre. On refarcit les pommes de terre, on remet ça au four, un petit coup de salamandre ou de grill. Et on a une pomme de terre très facile à faire qui est tout simplement gratinée au bleu d'Auvergne.
Je n'ai pas compris ce qu'un animal dégueulasse comme la salamandre venait faire dans cette histoire, mais la recette avait l'air bonne jusque-là, en tout cas.
Sur le Stilton, vous avez la réponse,
oui, c'est
David.
Un fromage au lait de vache.
Oui, c'est ça.
Ah oui, c'est ça, comme le
d'après Wikipédia, je peux aller plus loin.
Merci beaucoup.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, vous allez ouvrir votre boîte à camembert, uniquement pour me donner les bonnes réponses, j'espère. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts les uns les autres à vous affronter?
Ah, oui.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, hein. Une question pour Olivier, une pour David, une pour Mathieu. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner où il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse.
Et c'est Mathieu qui gagne.
Oui, mais ça, c'est pas écrit. Ça peut déraper. Alors, Olivier, évoquons Colette. Vous savez, la célèbre romancière, et c'est la deuxième femme à entrer dans le jury de l'Académie Goncourt. Femme libre, elle a vécu 3 ans avec la femme de son premier mari. C'est vrai ou c'est faux?
Ah, elle aurait donc piqué, pas piqué, puisqu'elle avait épousé son mari, donc elle aurait retrouvé l'ex-femme de son... C'est un peu tordu comme histoire, mais c'est tellement tordu que j'ai envie de dire vrai.
Non, elle a fait plein de choses, évidemment, Colette. Elle a mangé à tous les râteliers, comme on dit. Mm-hmm. Par contre, elle a eu une aventure avec son beau-fils pendant 5 ans. Et c'est cette relation qui nourrira son célèbre roman Le blé en herbe.
Et son beau-fils, c'est-à-dire...
C'est comme Phèdre, c'est ça?
Attendez, lequel de beau-fils?
Le fils de son mari.
Le fils de son mari, d'accord. Voilà. Son beau-fils, comme ça. Okay.
David, c'est un Japonais qui a inventé le brushing. C'est Gunpei Yokoi. Alors, je prononce mal, hein, mais...
Comment ça s'écrit?
Gunpei, G-U-N-P-E-I-T-R-E-M-A, ouais. Yokoi, Y-O-K-O-I. Itrema.
Comme
c'est
si
vrai
ça allait t'aider.
Ou faux.
C'est lui qui a inventé le brushing.
Ouais, le brushing.
J'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est qu'un brushing, en fait. C'est on sèche les cheveux en les formant en même temps, c'est ça?
En les formant,
oui. Oui, oui.
Avec, oui.
Mais pourquoi? Mais
vous marre parce que
n'ajoutez pas comme ça la honte.
Non, mais
déjà la mauvaise réponse.
Le type qui nous raconte les origines des inventions.
Il ne connaît pas la
monsieur Gunpei Yokoi, vous devriez le savoir. C'est l'inventeur de la Game Boy.
Ah, bah je ne savais pas, vous voyez. Ah, bah
tiens, par contre, on doit le brushing à Patrick Hallès. Il nous a quittés à 88 ans en 2019. Paix à son âme, il avait coiffé Edith Piaf, Jackie Kennedy et Catherine Deneuve.
Ouais.
Et avant, pas de brushing.
On entrait, vous savez, on allait sous la...
Sous la cloche.
Sous la cloche.
Ah, avec les bigoudis.
Ouais, oui,
ah,
exactement. D'accord. Mathieu. Le 1er juin 1994, c'est l'ouverture à la circulation du tunnel sous la Manche. Mmh. Est-ce qu'il y a une frontière entre la France et le Royaume-Uni sous le tunnel?
J'essaye parfois de lire dans les yeux de mes camarades un embryon de réponse, mais je ne lis qu'un vaste vide. Est-ce qu'il y a une marque? Il faut la préciser la question. Enfin,
Est-ce qu'il y a une frontière?
Est-ce qu'il y a une frontière qui est délimitée par un trait?
Non,
ou
même, même symboliquement, est-ce qu'il y a une frontière?
Écoutez, je vais répondre oui, il y a une frontière.
Oh là là, la victoire immédiate.
Par le traité de Canterbury, signé en 1986, oui, le tunnel est partagé en deux souverainetés territoriales. Il y a une frontière.
Si quelqu'un commet un meurtre dans la partie française...
Il dépend des autorités françaises.
Il dépend des autorités françaises. Oui. Ça, c'est intéressant.
Oui.
Donc il faut savoir à quel kilomètre de départ on...
Attaqué. C'est une belle victoire de Mathieu, mais elle était sans prévisible. Hein,
vous avez, vous l'aviez dit.
Vous l'aviez annoncé. Mais vous êtes voyant.
J'avais,
hein.
J'avais lu ça dans les entrailles de poulet.
dans la moisissure du bleu d'Auvergne.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Les amis, il était consacré à ces personnages qui voient la vie en bleu. Alors Stéphane, quel portrait vous a été le plus instructif aujourd'hui?
Écoutez, j'ai adoré raconter le destin de Jeanne Lanvin. Et de découvrir tout ce qu'elle a fait avec Martine Allaire. Ça, c'est vraiment pour moi une découverte. Et ce bleu Lanvin me séduit beaucoup.
Plus que le
non,
bleu
Klein. Non, le bleu Klein, mais j'ai pas les moyens.
Ah oui, bien sûr. Mais cotisons-nous, je le dis souvent. Cotisons-nous, créons une cagnotte Litchi pour Stéphane, pour qu'il puisse avoir quelques œuvres d'art à la maison.
Mais on peut pas l'imiter nous-mêmes chez nous.
Mais oui, un bon
non,
bleu
mais
peinture.
Je crois qu'il est déposé, là, son bleu.
Je suis sûr que ça va pas être le plus compliqué à reproduire quand même. Hein. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane?
Une émission.
Mais encore.
Oui, demain, tu l'as eu ta revanche, oui. On réunit trois revanchards de l'histoire. Jeanne de Belleville, qui a voulu venger son mari tué par le roi. L'aviateur Charles Godefroy, qui a pris sa revanche en volant sur les Champs-Élysées et surtout sous l'Arc de Triomphe.
Et les frères Winklevoss, vous connaissez les frères Winklevoss?
Oui.
Mais, hein,
oui.
Ils avaient eu un peu l'idée de Facebook, ils se sont un peu fait piquer l'idée par un certain Mark Zuckerberg. Ils ont eu leur revanche, ils ont investi dans un truc, le Bitcoin. Je vous explique tout demain.
Ils ont gardé le code.
Ah oui, ils ont le code, ne vous inquiétez pas pour eux. À demain Stéphane, à demain les amis.
À demain Mathieu, à demain les amis, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.